Nous sommes avec Sébastien Pérez, vous écoutez L'Autre Monde et nous sommes au Festival International de la BD d'Angoulême. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de l'album Les Fées de Cottingley qui est sorti chez Soleil. C'est plutôt un album pour adultes qu'une bande dessinée. C'est quelque chose de très travaillé. Et ça raconte l'histoire de deux cousines qui ont voulu se rendre un peu intéressantes en photographiant des fées en papier, enfin des fées qu'elles avaient fabriquées en disant que c'était des vraies fées. Sauf qu'elles ont attiré l'attention de Sir Arthur Conan Doyle et que partant de là, lui qui avait plein de réseaux, il a fait une publicité monstrueuse et qu'elles ont été un peu emmêlées dans cette histoire. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce projet et comment surtout vous avez traité l'histoire, parce que c'est pas tout à fait la biographie que vous avez présentée?
Oui, c'est vrai que le format est un peu particulier, c'est pas une bande dessinée. Moi, j'appelle ça, pour moi, c'est un roman illustré. Comment je suis arrivé à travailler sur ce projet-là? C'est simplement, en fait, parce que je connaissais Sophie de la Villefromois, donc l'illustratrice, depuis quelque temps. On avait envie de travailler ensemble. Et c'est elle qui m'a proposé de travailler sur l'effet de Cottingley, sur l'affaire des fées de Cottingley, parce que c'est effectivement, l'histoire se repose sur des faits réels. C'est-à-dire que, en 1917, effectivement, deux petites Anglaises, deux cousines, se sont prises en photo. Donc ça a duré de 1917 à 1921, et cinq photographies ont été prises durant cette période-là. Alors effectivement, ce qui a donné beaucoup d'ampleur à cette histoire, c'est l'intervention de Sir Arthur Conan Doyle là-dedans. Effectivement, il avait ses raisons parce que... alors, il faut savoir que Conan Doyle avait perdu son fils peu de temps avant cette histoire-là, et il a commencé à s'intéresser au spiritisme. Il voulait rentrer en communication avec son fils décédé, parce que c'est vrai que c'est un peu à l'opposé de l'image que l'on a de lui et de l'auteur de Sherlock Holmes. Et c'est vrai que lui, il croyait vraiment dur comme fer, et ça a pris des proportions incroyables. Ce qui est intéressant dans cette histoire, donc effectivement, Conan Doyle lui a publié un livre qui s'appelle The Coming of the Fairies, qui retrace toutes les interventions que lui a eues là-dedans, c'est-à-dire toutes les études qu'il a menées, les intervenants avec lesquels il a travaillé là-dessus. Il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont travaillé là-dessus, il a fait intervenir des médiums, enfin bon, vraiment, c'est une communauté assez incroyable. Et donc, on s'est dit, malgré tout, c'est vrai qu'il reste un énorme mystère, parce qu'il y a ces analyses qui sont des faits, puisque ça a été écrit. Il y a des dires des petites filles qui ont grandi, parce que l'histoire les a suivies jusqu'à leur mort, et elles n'ont pas eu toujours la même version. Et c'est vrai que la version qui nous a un peu choqué, enfin surpris avec Sophie, c'est la dernière version de Frances, donc la plus jeune des cousines, qui a révélé un petit peu avant sa mort que quatre des photographies étaient truquées, sauf une qui était une véritable photo, et qu'elles avaient vraiment vu les faits. Alors pourquoi elle aurait raconté ça juste avant sa mort? Je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme mystère à ce canular finalement énorme. Et on s'est dit qu'il serait intéressant justement de se placer du point de vue d'une des cousines et donc de trouver... Enfin, d'imaginer des explications à cette histoire incroyable.
Comment vous avez fait pour justement rentrer un peu dans la vie d'une des personnes? Parce qu'en fait, c'est sur ce qu'elle a dit à la fin, vous vous êtes dit, qu'est-ce qui a pu l'amener à ça? Mais comment vous avez fait pour lui donner de la consistance qui paraît réelle?
Je pense que mais c'est vrai que moi, dans plusieurs de mes livres, j'ai fait plusieurs fois ça. J'aime bien me positionner et avoir une fondation solide. Donc c'est vrai que l'idée de base, c'est de se renseigner au maximum et d'ingérer les faits, l'histoire, la réalité, enfin ce qui s'est réellement passé. Et ensuite, construire autour, finalement, c'est une espèce de psychologie. Donc il faut imaginer une psychologie d'un personnage et à chaque fois se demander, pourquoi elle aurait fait telle chose. Et moi, j'aime bien me projeter dans mes personnages. Et c'est vrai que quand j'écris, c'est un peu comme si je vivais leur vie. En fait, je me projette dans eux et j'invente les choses. Donc c'est vrai qu'il faut, il faut finalement se dire soi-même, qu'est-ce que moi j'aurais fait dans ces circonstances si j'avais été à sa place? Qu'est-ce qui aurait pu me toucher à cette époque-là? Est-ce que le fait que mon père parte à la guerre pendant que moi je reste avec ma mère chez ma tante, comment j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais pas essayé justement de m'échapper, de trouver du réconfort dans quelque chose? Et là je me suis du fil en aiguille, je me suis dit bah oui, mais c'est justement ces histoires de fées. En plus les fées c'est un peu particulier, c'est vrai qu'on peut avoir une version très très rose, un peu cucu des fées. On peut avoir aussi une version un peu plus dark où finalement c'est des personnages mythologiques qui écrivent les destinées et qui parfois peuvent ne pas être si bonnes que ça. Donc c'est vrai qu'en jouant là-dessus, je me suis dit voilà, on pouvait réussir à construire quelque chose. C'est vraiment, faut vraiment se baser sur la psychologie et construire la psychologie des personnages, et après l'histoire se construit un peu d'elle-même, je pense.
Du coup, on a quand même un aspect assez fantastique dans l'histoire, puisque il y a l'intervention d'une des fées, on va dire.
Alors, effectivement, l'un des personnages, c'est vrai que on joue sur cette ambiguïté du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est vraiment une fée? Est-ce que c'est pas une fée? Qu'est-ce qui s'est passé? On voulait rester là-dessus, on voulait rester sur cette ambiguïté sans que. Et c'est vrai que c'est qu'à la fin où vraiment on a un peu une explication de ce qui a pu se passer. Et c'est vrai que moi j'avais bien, oui justement, j'avais voulu faire intervenir cette troisième personne qui était un peu la clé de ce mystère-là. Alors est-ce qu'elle était vraiment une fée? Je pense qu'après les gens peuvent aussi interpréter différemment tout au long du livre, et la fin est un peu ouverte. Je pense qu'on n'aura jamais de réponse de toute façon à cette histoire, et je pense que jouer sur cette ambiguïté, je pense que c'était très 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 important.
Et vous, les auteurs, vous êtes fait une opinion? Est-ce que, enfin, sur les faits réels ou non?
Sans nous donner forcément votre version, mais juste nous dire oui ou non.
Moi, je dirais oui, mais que les faits sont pas forcément ce que nous on s'imagine. C'est-à-dire que un insecte un peu particulier, on pourrait très bien imaginer que la gamine soit dit c'est quelque chose qu'on connaît pas, donc c'est tout est soumis à interprétation de toute façon. Et je pense que oui, ceux qui croient pensent avoir vu des fantômes, oui, ils ont peut-être vu quelque chose. On dit pas qu'ils sont fous, qu'ils ont rien vu, mais ils interprètent. Après, qu'est-ce qu'une fée réellement, c'est là qu'il y a le mystère, c'est ça qui est plaisant aussi.
Vous êtes présent donc sur le festival d'Angoulême, vous avez fait quelques dédicaces. Comment a été reçu le livre par le public?
Alors le livre est sorti au mois de novembre, donc c'est vrai qu'on a eu, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs salons. Il y a d'abord eu le salon du livre de la jeunesse de Montreuil, où il a effectivement eu un bon accueil. Et là, j'ai fait deux dédicaces, et c'est vrai que c'est... En fait, j'analyse il interpelle les gens, mais de façon très différente. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui me connaissent de l'univers jeunesse et qui finalement vont vers ce livre. Parce que c'est vrai que ce livre, c'est aussi amusant, c'est que c'est un peu le reflet de Sophie et de moi-même. C'est-à-dire qu'on était des auteurs qui n'avaient publié qu'en jeunesse, et comme les deux cousines passent à l'état adulte, nous on a fait un peu la même chose. Donc ça nous amusait aussi de rester dans cette transition. Et dans le thème de la collection, c'est de la métamorphose. Et c'est vrai que donc il y a les gens qui me connaissaient déjà, il y a ceux qui connaissent la collection et qui finalement se disent que c'est bon, je pense que c'est quand même une valeur sûre cette collection, et bon, ils se disent pourquoi pas. Et il y a les gens qui sont interpellés par cette histoire avec Conan Doyle et cette histoire de fées qui a l'air un peu obscure. Après, il y a encore quelques rares personnes qui connaissent l'affaire des fées de Cottingley. Il y en a pas beaucoup. C'est vrai que là, à chaque fois, je demande aux gens est-ce que vous connaissiez cette histoire? Parfois, ils ont même pas vu les photos. Pourtant, non. Il y a quand même pas mal de gens qui ne connaissent pas cette histoire. Ils prennent ça pour une histoire créée originale de A à Z. Ils savent pas forcément que ça repose sur des faits historiques. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on n'a pas reproduit les photos à l'intérieur. Il y a deux photos, mais elles sont réinterprétées par Sophie parce qu'on voulait qu'il y ait une unité graphique dans le livre. Mais c'est pas une histoire qui est finalement si connue que ça. Vous êtes plus peut-être dans le milieu, forcément, mais là on touche pas forcément. Enfin, moi je pense pas qu'on touche le même public. On est un public beaucoup plus large qui n'a pas forcément entendu parler de cette histoire.
Et du coup, c'était important pour vous de le remettre vraiment à cette période-là et de vous attacher à ça? Vous auriez pu reprendre cette histoire-là? et en faire une extrapolation ou en faire une vraie adaptation à une autre époque, etc. Vous vouliez un peu remettre ça dans l'histoire et donner justement votre interprétation des faits.
Alors, autant j'aime bien compléter la vérité, autant j'aime pas déformer la vérité. Parce qu'on se base quand même sur des faits réels. On se base sur un personnage, enfin, des personnages historiques qui ont existé. Conan Doyle, j'allais pas replacer Conan Doyle, enfin, j'allais pas imaginer un autre intervenant qui serait aussi un écrivain. Bon, il y a aussi autre chose, c'est que pourquoi cette histoire a eu tant de difficultés à être analysée, c'est que c'était aussi un petit peu les débuts de la photographie. Si on faisait ça maintenant, avec Photoshop et tout, évidemment, quand on regarde des photos maintenant, on se dit, bon, bah, ça se voit que c'est des photos truquées ou pas truquées. On arrive à faire tellement de choses maintenant qu'on, bah, le canular ne passerait plus maintenant, parce que deux petites filles qui truqueraient des photos avec Photoshop, tout le monde saurait que c'est ça. Et c'est vrai que dans le contexte de l'époque, on peut comprendre pourquoi ça a eu un tel engouement et pourquoi ils ont eu tant de difficultés à prouver que les photos étaient fausses. Donc je ne me voyais pas déformer cette réalité.
C'est tout le charme de ces grandes histoires qu'on retrouve aussi avec Jack l'Éventreur qui font qu'on ne saura jamais, on peut justement imaginer.
Bah, je pense que dans toutes les croyances, c'est vrai que si on avait les preuves de tout, ça générerait peut-être moins de passion, moins d'espoir. Pourquoi on croit plus dans certaines religions que dans la science finalement, enfin, donc, je pense que le mystère et l'inexpliqué, surtout quand on part dans le monde de la féerie, c'est vrai que c'est une recherche d'espoir. Comme Conan Doyle, lui, voulait justement, c'était le désespoir que lui avait causé la mort de son fils qui l'a amené à ça, comme beaucoup de gens aussi à l'époque, parce que Victor Hugo, c'est pareil. Hein, pourtant, c'est des gens sensés, mais qui finalement vont vers cet inexpliqué-là qui est fascinant, en fait.
Est-ce que vous avez pensé à une bande-son à écouter en même temps qu'on lirait votre roman ?
Pas du tout. Parce qu'en fait, non, mais c'est vrai que si j'avais imaginé une bande-son, ce serait une bande-son de son de la nature. C'est-à-dire le ruisseau, parce que là, pour moi, l'univers, c'était justement cette forêt. Donc, ça aurait été les bruits des oiseaux, des petits bruits des mulots ou des insectes qui froissent les vieilles feuilles par terre, l'eau qui coule. Enfin, ce serait plus la nature, puisque là, effectivement, on est dans cette... puis finalement, dans le livre, il y a aussi l'opposition entre la civilisation, les hommes et la nature. C'est plus ce genre de... Ou alors, après, bon, effectivement, on aurait pu faire intervenir pendant les moments de guerre, les bombardements, enfin, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce serait plus ce genre de choses-là qu'une musique.
Plus du bruitage pour une immersion.
Exactement, ce serait plus du bruitage qui permettrait de se projeter vraiment dans ce qu'elles entendaient.
Il y a parfois de grandes discussions sur la couverture. Comment la choisir, qui décide, etc. Comment ça s'est passé pour vous ?
Initialement, la couverture, c'était pas du tout celle-là qui était prévue. C'était une image qui est à l'intérieur du livre, qui est en fait Frances, mais donc la plus jeune des cousines, mais beaucoup plus douce. Et ce qui s'est passé, c'est que Sophie donc a avancé la réalisation du livre, et à un moment, elle a fait cette image qui actuellement la couvre. Et donc là, Barbara, l'une des deux directrices de collection, a dit ça, il faut que ce soit la couvre. Et là. Donc en face, il y a plusieurs personnes. Il y avait Sophie, il y avait moi, il y avait Barbara et Clotilde Vue. Et là, donc on est quatre intervenants. Et là, tout le monde dit OK, évidemment. Là, on s'est dit c'est tellement évident parce que l'autre finalement était très très gentillette. Ça faisait très jeunesse pour le coup. Et c'est vrai qu'on se dit finalement c'est un peu mentir aussi sur le contenu parce que on a un côté beaucoup plus obscur. C'est devenu une évidence quand cette image est arrivée. Et là, c'est vrai que Barbara a vraiment eu l'impulsion sur le truc, et elle a eu, je pense, totalement raison.
Vous travaillez sur quoi en ce moment ?
Je travaille sur un format, je suis en train d'écrire un livre pour Benjamin Lacombe, mais en jeunesse, qui sortira je ne sais pas encore quand. Mais je suis aussi en cours de... Alors moi, j'ai déjà fait l'écriture, mais c'est un peu le même format, c'est-à-dire que format un peu plus court, c'est plus une nouvelle qui sera illustrée, mais je travaille avec Ana Juan, je ne sais pas si vous connaissez cette artiste, c'est une illustratrice espagnole, franchement je vous invite à regarder son travail, c'est une qualité incroyable, c'est une illustratrice espagnole qui a fait beaucoup de couves du New Yorker, notamment la coupe du New Yorker qui a été faite juste après les attentats de Paris. Vous savez, la Tour Eiffel, là. C'est elle. Et c'est vrai qu'elle a réalisé beaucoup de coupes du New Yorker. Elle est très connue en Espagne, elle a eu beaucoup de prix. Et c'est vrai qu'elle est peu connue en France. Moi, je l'ai rencontrée parce qu'on a fait avec Benjamin Lacombe. On fait souvent des tournées en Espagne et en Amérique du Sud pour la promotion de nos livres. Et on a fait une tournée avec elle et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et j'avais un projet que j'étais en train d'écrire. Et là, je lui ai proposé... Bon, au début, elle n'en a pas voulu. donc, je l'ai réécrit. Et finalement, elle a accepté. Donc, j'étais très content. Et donc là, elle est en train de le faire. En revanche, on le publie d'abord en Espagne. Avec l'éditeur qui publie nos albums en français, en Espagne et en Amérique du Sud. Donc là, je le fais directement avec elle.
On va partir du principe que vous avez été choisi pour partir à l'aventure. Mais vous allez partir avec un des compagnons que je vous propose, soit avec Gollum, Jar Jar Binks, Jiminy Cricket, un mignon ou Lapin Blanc. Vous partiriez avec qui à l'aventure ?
Alors, je suis quelqu'un qui n'est pas très, très aventureux. Je suis quelqu'un de très prudent. Donc je dirais le Lapin Blanc. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Lapin Blanc d'Alice, pour moi, représente Benjamin Lacombe, qui m'accompagne souvent, et c'est vrai qu'il m'est d'une grande aide sur beaucoup de choses. Et comme je suis effectivement quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui et qui a besoin de soutien aussi bien moral que finalement, ce lapin et l'avoir à mes côtés pour des aventures et partir un peu loin, voilà, c'est un peu l'indispensable pour moi. Donc voilà, pour moi le choix est évident.
Un mot pour conclure ?
Bah, j'espère que ce livre permettra aux gens, en tout cas en France, d'apprendre un peu plus de choses sur cette histoire qui pour moi est vraiment, vraiment passionnante. Et j'espère que ça amènera aussi les gens à lire le livre que Conan Doyle a écrit, qui est aussi assez incroyable. Et voilà, j'espère qu'il fera sa petite vie tranquille et que les gens sont toujours très intéressés par cette histoire. Et même si on n'aura jamais vraiment d'explication à tout ça, que chacun se fera son opinion et relancera ce mythe.
Merci,
merci à vous.